ça rime à quoi ? Ça rime à quoi avec Alain Jadot, traducteur français d'Oscar Pastior. Les éditions Nous, Now viennent de publier Alain Jadot votre traduction des poèmes, Gedicht, d'Oscar Pastior, qui est mort en 2006, mais demeure membre de l'Oulipo pour les siècles des siècles. C'est ce qu'il y a de plus chic, c'est encore mieux que l'Académie française. L'immortalité est bel et bien réelle. Ce titre-là, poème, en un seul mot, mais au pluriel, c'est une façon de rappeler combien Pastior aimait jouer de la langue.
Ah oui, d'ailleurs, je ne sais pas combien il a fait de livres, mais tous ces livres avaient un enjeu linguistique. C'était soit des poèmes, ou des anagrammes, ou des palindromes, ou des sonnets, ou des sestines. À chaque fois, c'était un défi nouveau.
Qu'est-ce que c'est un poème ? Il y a la définition des poèmes qui fait suite à la préface de Christian Prigent dans cette édition-là. Mais pour vous qui l'avez pratiqué depuis tant d'années, jusqu'à vous en rendre un peu fou, en tant que traducteur, Alain Jadot, c'est quoi le secret du poème ?
Alors le poème, ce sont des poèmes qui sont expliqués, des poèmes qui n'ont jamais été écrits. Mais ce sont des recettes de poèmes qui devraient être écrits comme ça, pour exister.
J'aime traduire, c'est viral. C'est ce que vous écrivez, Alain Jadot, en guise d'excuse et de conclusion après la traduction de ce livre-là. Vous aimez surtout traduire Oscar Pastior. Vous l'aviez rencontré il y a de cela plus de 30 ans. C'était en mai 87,
voilà,
quelque part en Mayence.
À Mayence, une petite foire du livre à Mayence. Et j'avais traduit le premier texte que j'ai traduit, c'était un petit texte très court, mais très ardu. Je l'aborde avec beaucoup de respect parce que Oscar, c'était quand même un grand monsieur. Et moi, j'étais un petit traducteur.
Vous aviez 30 ans à l'époque.
Voilà. Il remarque quand même que j'ai un accent et il me demande si je suis huguenot.
Vous parliez quoi avec lui ? Il parlait 7 langues,
oui,
mais
enfin,
pas le français.
Il écrivait en allemand et il publiait en allemand. Il avait la nationalité allemande. Il était roumain allemand d'origine. Donc c'était aussi une de ses langues maternelles. Voilà.
Et alors il vous dit quel est cet accent huguenot ?
Il me demande si je suis huguenot. Alors je lui dis la vérité, j'ai des origines européennes, franco-belges. Il me dit, mais de toute façon je suis intraduisible. Manque de chance, mais bon, il est interdit d'interdire. Et je me suis dit, mais j'ai quand même fait un texte. Ah bon, quel texte ? Alors c'était Futurum 1, Futurum 2. Oh ben justement, celui-ci est très difficile. Eh bien, il me dit, bah, envoyez-moi la traduction chez moi. Vous avez mon adresse ? Ah ben non. Ah ben, je vais vous la donner. J'habite à Berlin. Ah ben moi aussi. À Charlottenburg. Ah ben moi aussi. Schlüterstrasse 53. 53. Ben, je lui dis, on est presque voisins. Moi, c'est Kaiserdamm. Et puis, mais je lui dis, mais bon, on va économiser le timbre. Parce que moi, j'étais un pauvre malheureux. Sans timbre, et je lui dis, mais je peux vous le donner tout de suite. Ah, vous l'avez là, le texte. Alors, il était très curieux de voir ma traduction, et puis finalement, il était agréablement surpris, et donc j'étais ravi d'avoir passé l'examen pastoral.
Ce poème-là, Alain Jadot, vous l'avez avec vous encore aujourd'hui. Ça a été publié en 88, cette édition-là, cette version-là. À l'époque, ça coûtait 1 franc.
Oui, c'était au marché de la poésie. J'avais réussi à le faire inviter au marché de la poésie. Et voilà, c'était un beau petit concert quand il faisait des lectures. C'était vraiment des petites perles acoustiques. Il avait une très très belle prononciation et ça chantait. On avait parfois même l'impression de comprendre alors que... Il avait fait un livre en criméo-gothique, une langue qui n'existe pas. Par la façon dont il parlait, on avait quand même l'impression de comprendre. J'étais un peu incapable de traduire après, bien que j'ai eu des idées. Il y a des mots qui donnaient quand même des pistes et des choses comme ça. Mais j'aurais été incapable de faire un résumé de certains de ce poème.
Et lui, il comprenait, Pasteur, ce qu'il disait ?
Alors là, il a avoué que des fois, il ne comprenait pas toujours, mais ce n'était pas important. Je l'avais invité à un café littéraire à l'Université Technique de Berlin, et je l'avais invité parce que, bien sûr, c'était un de mes préférés. Et là, il y avait des étudiants dans tous les domaines, Université Technique, hein, donc des ingénieurs, des machins comme ça. Il y avait un ingénieur, justement, qui était là, et puis qui lui a demandé à la fin de la lecture « Mais vous comprenez tout ce que vous dites, là, ça a un sens ?» Et Oscar, qui était très gentil, affable, dit « Oh, ben, il y a des mots que j'ai créés, donc je ne suis pas sûr de savoir le sens, il n'y en a pas vraiment de défini, mais et ça vous amuse de faire ça ?»« Ben oui, bien sûr. Et vous vivez de ça, avec des mots comme ça, que personne ne comprend ?» Ah, il y a des gens qui comprennent quand même. Et puis oui, je vis de ça. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Ah ben moi, je fais mon diplôme d'ingénieur. Ingénieur dans quoi ? Dans les engrenages. Et vous voulez vivre de ça ? Ben oui, bien sûr. C'est très intéressant, les engrenages, suivant l'angle des dents, l'épaisseur, et ça, il y a des propriétés différentes. Et on a besoin des engrenages. Il y en a partout, des engrenages dans la vie. Eh ben, vous voyez...
Dans la première ligne, il y a un A et encore un A. Ce sont les deux A de la première ligne. Dans la seconde ligne, il y a un A et encore un A. Ce sont les deux A de la première ligne, mais intervertis l'un l'autre. Dans la troisième ligne, il y a un A et encore un A. Ce ne sont plus les deux A de la première ligne, mais les deux A de la quatrième ligne, toutefois intervertis l'un l'autre. Cela apparaît dans la quatrième ligne où il y a un A et encore un A. Ce sont les deux A de la quatrième ligne, mais intervertis entre eux. Le poème peut être lu horizontalement et verticalement, ce qui amplifie son effet de manière frappante. Prière d'en faire un dessin. La calèche de la poésie est attendue dans le poème allégorique éponyme. Son partenaire est le coquillage du monde. En outre, sont incarnées les annales du symbole, le symbole de l'idée, l'idée de la liberté et la liberté du coquillage. Tandis qu'un génitif nu erre dans les règles de l'erreur. En arrière-plan, on place la calèche avec des personnes en place et elle s'approche.
Pasteur, j'adore, c'est ce que vous écrivez, Alain Jadot, pour dire le grain de folie que ce poète-là a mis dans votre tête. Avec Pasteur, c'est carnaval. Ce qu'il faut préciser, c'est que vous avez souvent traduit avec Oscar Pasteur à vos côtés.
Oui. Oui, c'était vraiment très très intéressant de traduire avec lui parce que c'est quand même touffu ce qu'il écrit, hein, et je n'avais pas toutes les clés, même si bon, mes connaissances allemandes étaient quand même assez bonnes. Le monde de Pasteur, c'était quand même ardu. Quand j'avais traduit ça, j'ai traduit des petits textes qui me plaisaient, j'en traduisais de plus en plus et ça passait dans la légendaire revue TXT. Et puis d'autres, Docs, et puis Europe, et puis d'autres revues. J'essayais de placer mes textes. À chaque fois, il me donnait un défi. Oui, ça, tu l'as fait, d'accord, mais tu ne pourras pas traduire des poèmes anagrammes, par exemple. Alors, j'ai traduit forcément des poèmes anagrammes. Et puis après, il a augmenté la difficulté, palindrome, et puis des choses comme ça.
Et puis un livre entier, ce n'est pas possible.
Voilà, un livre entier, ce n'est pas possible. Ah, alors, il m'excitait. J'en ai parlé à Christian Prigent et puis il m'a dit voilà, bon, ben, on pourrait faire Gedicht, Gedicht. Et donc j'ai commencé par les plus simples, les plus courts, parce qu'il y en avait qui faisaient quand même plusieurs pages. Puis j'allais le voir par étapes et puis on corrigeait à deux. Alors j'avais des listings informatiques à l'époque, c'était des listings sans fin là. Des corrections et même des corrections ou des renseignements de sa main comme ça.
Vous lisiez en quelle langue?
Alors, je lisais son texte en allemand.
L'original, donc?
Oui, l'original. Et lui regardait ma traduction, là, sur ses listings, Leporello, là, informatique, quand il ne comprenait pas, parce qu'il ne parlait pas vraiment le français. Mais bon, le latin, le grec, l'allemand, l'anglais. Et puis, quand il avait un problème, il me demandait, je retraduisais donc dans l'autre sens. Et puis donc par étapes, je prenais bien sûr au fur et à mesure tous les poèmes. Et à la fin, j'étais tellement dans le monde Pastior que j'étais même déçu d'arriver à la fin. J'en avais plus à traduire alors que à la fin ça...
Vous étiez bien chaud, c'était le moment là, à la Jadot.
Oui. Là, c'était vraiment comme en transe, mais sans prendre de substance quelconque, rien que par la poésie. Et le lendemain, je devais travailler à la fac. Il était quand même très, très tard. Il était 3 heures par là. Je me couche. J'arrive pas à m'endormir. J'avais tous les mots qui me tournaient dans la tête. Je rallume la lumière et j'écris 5 textes à la Pastior, pasteurisés, en français, puisque je traduisais vers le français. Puis le lendemain, je n'ai même pas dormi beaucoup, mais j'avais la pêche et tout ça. Et quand je reviens de la fac, je regarde ce que j'avais fait. Ça me plaisait bien. Et donc, par jeu, comme ça, j'ai retraduit ces textes. C'est ce que j'ai appelé des traductions prophylactiques. Des traductions de textes dont je n'avais pas l'original. J'ai donc retraduit des originaux provisoires.
En allemand pour lui.
En allemand, voilà. Et puis, j'ai fait un rendez-vous avec lui. Et puis... J'avais écrit donc mes traductions sur ce listing là et enfin les siennes et puis à la fin les miennes et je continue à lire comme si de rien n'était et me dit mais qu'est-ce que c'est que ça, mais je connais pas, fais voir, mais où t'as eu ça, ça avait été imprimé. La panique, j'avais un petit peu les chocottes, comme on dit, parce que c'est un grand poète comme ça, et moi, le petit Jadot, là, comme ça, de service, pu mal le prendre, quand même. Je lui ai expliqué le truc, et finalement, ça lui a plu. Alors, il dit, bon, ben, allez, on regarde, et puis si ça doit être publié, eh bien, je te donnerai les originaux, d'après ta traduction. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais enfin, c'était son esprit ludique avec la langue, avec les mots, créer du texte à partir de n'importe quoi, enfin, un prétexte, voilà.
Vous étiez coopté.
Voilà.
C'est comme pour l'Oulipo.
Voilà. Et pour l'Oulipo, d'ailleurs, il m'avait téléphoné, parce que parfois, oui, on se téléphonait comme ça, et puis il me dit, oh, j'ai reçu une lettre d'un groupe, ils ont l'air vraiment, je sais pas, bizarre, comme pas l'air sérieux. Tu connais ça, l'Oulipo? Ah bah oui, quand même. Roubaud. Je sais pas, ils me demandent de rentrer dans leur association. Moi, je suis pas trop un type à rentrer dans les associations, ça me plaît pas beaucoup. Mais je lui dis, mais là, c'est quand même quelque chose de bien. Là, il y a Pérec, Queneau, machin. Et puis, c'est exactement ce que tu fais, en fait. Et donc, il s'est laissé tenter. Et puis après, il était ravi d'être à l'Oulipo. Il a pris un essor. Voilà.
Dans la première ligne, le poète s'imagine un organe sexuel. Dans la seconde ligne, le poète ne s'imagine pas d'organe sexuel. Dans la troisième ligne, le poète s'imagine comment le lecteur s'imagine un organe sexuel. Dans la quatrième ligne, le lecteur s'imagine comment un organe sexuel s'imagine le poète. Dans la cinquième ligne, un organe sexuel s'imagine le lecteur qui ne s'imagine pas d'organe sexuel. Dans la sixième ligne, le poète s'imagine comment le poète ne s'imagine pas de poète. Et dans la septième ligne, aucun lecteur ne s'imagine d'organe sexuel. Dans la huitième ligne, pas un organe sexuel ne s'imagine comment un non-organe sexuel s'imagine un organe sexuel. Dans la neuvième ligne, aucun poète n'imagine d'organe sexuel. Dans la dixième ligne, un sexe s'imagine un organe. Le poème n'est pas pornographique et tire tout son charme du titre « Novembre ». Sur la première chaise, il y a le poème qui lit le journal. Sur la seconde chaise, il y a l'auteur qui joue au dé. Sur la troisième chaise, il y a du temps libre qui dessine une personne. Sur la cinquième chaise, il y a l'interlocuteur qui sirote tranquillement. Sur la sixième chaise, il y a l'esprit papillonnant en pleine création. Sur la septième chaise, il y a le concept qui corrige des épreuves. Sur la huitième chaise, il n'y a personne, mais qui est en train de regarder fixement la neuvième chaise. Il y a la dixième chaise. Et sur la dixième chaise, il y a encore quelqu'un qui converse. Sur la onzième chaise, il y a encore un poème qui corrige des concepts. Et sur le douzième poème, il y a le lecteur. Les douze chaises sont un poème-film portant le sous-titre « Colophonium ». Le poème « Bande magnétique » a une voix d'or et celle-ci raconte l'histoire d'un crime pendant qu'une bande magnétique débite d'une voix d'or l'histoire même de ce crime. Et la voix d'or est la voix de la victime assassinée qui raconte comment la bande magnétique continue à tourner tandis que le coup derrière les oreilles et la nuque provoque chute, râle et décès. Mais tout cela, comme dans un film muet, parce qu'on entend sans arrêt la voix de la victime assassinée sur la bande magnétique qui raconte, à l'instar d'un poème, que d'une part, on pourrait penser qu'un film muet est une coupure, tandis que la musique continue à jouer, et d'autre part, que le film muet continuerait à être projeté sur l'écran de telle sorte qu'on voit un verre tomber du bord d'une chaise, mais sans entendre comment il se brise. Idem pour le combiné du téléphone qui se balance sans qu'on perçoive la rhinolalie parce que la voix d'or sur bande magnétique persévère à donner l'heure exacte. Le poème « Bande magnétique » porte le titre fabuleux de « Rukululu ».
La table des matières, Alain Jadot, de ses poèmes, poèmes, guidiste, guidiste, dit bien cet amour des mots et des mots que l'on assemble et que l'on dérègle aussi. C'était une façon qu'avait Oscar Pasteur de prendre la poésie par le revers et de la faire jongler, de la faire vivre. Il y a par exemple le poème de poche, le poème à retenir, le poème bande magnétique, qui nous dira son rapport à la radio très très fort, le poème carnivore, le poème transparent, le poème soustraction, je voulais écrire le poème Botticelli, le poème préface, le poème paysage, le poème coquille, le poème à lire, la purée de chanvre, la seconde de Gênes, le poème clé, hélas, le poème rêve. Tous ces poèmes-là, qui ont donné poème, poème, ils sont à la fois imaginaires et en même temps extrêmement concrets.
Oui, oui. On peut effectivement s'imaginer concrètement. C'est pas de la poésie concrète, mais c'est...
C'est de la poésie foutraque, un peu.
Voilà. C'est un jeu gratuit et ludique, voilà.
Dont il a fait sa vie. Oscar Pasteur avait déclaré sa profession d'écrivain dans la pièce où il habitait pour dire qu'il avait sa petite entreprise à lui. Pour autant, le destin germano-roumain d'Oscar Pasteur ne fut pas de tout repos. Vous nous brosseriez, Alain Jadot, le portrait de cet homme qui va d'octobre 1927 à octobre 2006, l'automne où il est mort, d'une crise cardiaque, tandis qu'il rédigeait le discours pour le prestigieux prix littéraire qu'il devait recevoir le lendemain même.
Il parle d'ailleurs par allusion dans ses textes. Par exemple, le poème Botticelli, c'est son passé à la radio en Roumanie, où il était obligé de faire l'éloge de Ceaușescu. Il exagérait tellement, on va pas prendre ça quand même, le génie des Carpates est plus blanc que la neige la plus blanche. Enfin, des choses complètement absurdes. Ça marchait très bien, il s'était pris quand même. Bien sûr, il a commencé très jeune à écrire la poésie. Sa première poésie, c'était dans sa maison en Roumanie. C'est une grande bâtisse et c'est sa grand-mère qui l'a inspiré. La grand-mère qui était très vieille et qui n'avait plus beaucoup de rôle à jouer et qui était responsable de la lumière et de la lumière. Elle ouvrait et fermait les jalousies. Alors c'était... Jalousie aufgemacht, Jalousie zugemacht. Jalousie aufgemacht, Jalousie zugemacht. Jalousie aufgemacht, jalousie, sougaïma. Voilà. Ouvrez les volets, fermez les volets. Ouvrez les volets, fermez les volets. Voilà. Et ça énervait tellement sa mère. Tais-toi, Oscar.
C'était les débuts de la poésie sonore.
Voilà.
Quelque part en Roumanie.
Et c'était son premier poème qu'il chantait comme ça à tue-tête. Mais bon, les mamans n'ont pas toujours la...
L'oreille la poétique.
Voilà, c'est ça.
Et ensuite, Oscar Pasteur, c'était son vrai nom ?
Oui, oui, c'est son vrai nom.
Oscar avec un K.
Oui. Je ne sais pas trop sa vie. Il m'a raconté des bribes, bien sûr, quand il y avait un détail. Sur la traduction, par exemple, il était prisonnier en Russie et il a appris très vite le russe parce qu'il s'était aperçu que les traducteurs mangeaient mieux que les prisonniers. Parce qu'on avait besoin d'eux, donc ils avaient des portions plus grandes. Il a commencé à vivre de la langue. Et là, il s'est aperçu aussi que la puissance du mot, qu'avec une traduction même fidèle, on peut envoyer quelqu'un à l'échafaud ou à la mort. C'est pas dans ce recueil-là, c'est dans Pétrarque.
Les 33 sonnets.
33 sonnets, où il en fait une allusion. C'est toujours très léger, hein, c'est pas... Ou sur son homosexualité, il y a des comme ça, des petites choses que j'aurais peut-être pas décelées s'il n'avait pas été là, forcément, parce que...
C'est très léger dans ses poèmes, mais c'était fort long dans la vraie vie. Le goulag, ça dure 4 ans.
Oui.
De 45 à 49.
Oui. Il y a aussi un aspect moins connu, enfin, qui a été découvert après sa mort. Bon, il avait été chargé par la Securitas de surveiller deux poètes. Ça, il n'en a jamais parlé, même à moi. Des fois, il me disait des choses qu'il avait toujours des ennuis avec la Securitas et tout. Enfin, maintenant, il était content d'être à l'Ouest.
Jalousien aufgemacht, Jalousien zugemacht, Jalousien aufgerauft, zu Luzien raufgezut, Luluzien zugemault, zu Lustoßen zugemault, Maulusinen angenehm, Aulusinen zugenehm, zu Faliden aftermat, Infaliden aftermat, Afluminion zugesaut, Aluflorion zugebart, Marmelodien zusalat, Marmeloiden busalat. Aufgemalt, o oh, aufgemalt, zugedaut, o oh, zugedutzt, Dutzendrum, o oh, Lebenslau, Ofenbrotzen, Oppenbreck, Primo Limes, Heiferzocht, Benelalia zuverzum, Mamu, Amaryllis, of, Bullamanium, Absalom, Albumenium, Zusalon, Nostradamul, Hanomak, Lanatolior, Gartemslauch, Futusilior, Abfallgeist, Mutunalia, Birnholz, Zepha, Luden, Enzial, Cephaliden, Ichthyol, Nebelnieren, Löwentran, V-Scharnieren, Besenraum, Ebeltüren, C-Streusalz, Aventüren, Abstrahldom, Stalagmista, Oberum, Virostrato, Luftballon, Jalopeten angemacht, Sulalaika, Kukumatz, Mulu aufu, Mulu zuzu, zuzu mutz. Monte ma, o monte zu.
À quoi ressemble la langue allemande d'Oscar Pasteur, Alain Jadot ? Parce que pour déjanter les mots, c'est très étrange pour un Français d'imaginer que l'allemand peut être aussi déstructuré et fou.
Comme la langue allemande est très logique, on prononce toutes les lettres par exemple, et la construction des phrases est très structurée, et on a la possibilité aussi de créer des mots, je sais pas, des mots pratiquement valises, et qui sont corrects, ce n'est pas seulement des néologismes, ce sont des mots qui sont acceptés. Donc déjà ça, c'est une possibilité de créer un monde en mettant des mots ensemble qui n'ont pas de rapport, par exemple. Ou de faire des glissements de sens en évitant une lettre ou en... Et l'allemand se prête très bien aux jeux de mots. Ce sont des autres jeux de mots qu'en français.
Le poème commence bizarrement par la dernière ligne. Cette ligne affirme être la dernière du poème. Mais, comme le poème commence par cette ligne, l'affirmation de cette dernière n'est pas sérieuse. ou ne doit pas être prise au mot. Or, comme d'autre part, dans un poème, chaque affirmation doit être prise au sérieux ou au mot, soit que le poème n'en est pas un, soit que l'affirmation doit être prise au sérieux ou au mot, mais comme le poème est malgré tout exemplaire, il ne possède qu'une seule ligne. Son titre, Paysage solitaire. Le poème Ascenseur est composé d'un morceau de papier d'emballage qu'on plie trois fois, colle une fois et effrange aux deux extrémités avec des ciseaux. L'acquis cognitif de la fabrication est minime, comparé à celui du comportement qui s'ensuit en fait dans l'ascenseur. Pour cela, on a encore besoin d'un bout de ficelle, de jumelles et de 1 à 2 témoins. Si l'ascenseur fonctionne, alors le morceau de papier d'emballage, le bout de ficelle, les jumelles et les 1 à 2 témoins fonctionnent aussi. De cette manière, rien ne se perd. Au contraire, les spectateurs étrangers ont l'impression d'une idée artistique pendant que les témoins confirment qu'il ne s'agit effectivement d'aucun cerf-volant. Les poèmes se différencient plus du papier que le papier par rapport à eux. Dans cette marge de manœuvre se trouvent les chances et le malheur des uns comme des autres. Les poèmes ne peuvent être comparés qu'avec des choses comparables et doivent donc être considérés en tant qu'inventions. Ils subissent l'altération, cependant, une fois écrits dans leur langue, ils se comportent autrement qu'en théorie, servent leur propre but et ont les rieurs de leur côté pile, tandis que les muses se battent en silence et en face.
Ça fait plaisir, Alain Jadot, lorsqu'on trouve cette façon de ne pas opposer pile et face, mais de mettre en face les muses à la fois à distance et en même temps qui inspirent.
Ben oui. Mais s'il prend du plaisir à écrire, je veux aussi en avoir, en français. Il faut traduire ça, sinon. D'ailleurs, il me donnait la liberté d'adapter justement parce que il y a des jeux de mots ou des citations qu'on ne peut pas retrouver en français. Et donc, si je ne m'éloignais pas trop, si je restais dans le contexte, il acceptait ça. C'était. Je trouve ça quand même bien, quoi. C'est normal, quoi. Il n'y a pas que lui qui doit avoir du plaisir, moi aussi.
Poème d'Oscar Pastior, dans la traduction d'Alain Jadot, est publié aux éditions Nous. Ces poèmes étaient dits par Bernard Bouillon et la voix d'Oscar Pastior. Ça rime à quoi ? 24 heures sur 24 sur le www.franceculture.fr pour réécouter durant 1000 jours et nuits et télécharger librement le temps d'une année entière. Ça rime à quoi est de retour en septembre, mais votre été continue en poésie sur France Culture. Si ça vous chante, rendez-vous dès demain à 14h23 pour 6 semaines de poèmes en chansons de Rudebeuf à Boris Vian. Sarie Macquois, Marie Le Peintre, Philippe Palares, Anne de Biran, Patrick Molinier, Sophie Nolo. Changement de décor dès 20h30 sur France Culture, place au théâtre avec Joël Gaillot.